L'enfant océan. Suite de la première partie. Chapitre 6. Récit de Rémi d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. On a quitté nos habits mouillés et on s'est entortillés dans les couvertures. Yann s'est blotti entre Fabien et moi. Il a fermé les yeux, mais je le connais bien et j'ai su qu'il ne dormait pas. Les petits se sont entassés dans la couchette derrière nous. Le chauffeur a posé quelques questions au début. Où on allait, d'où on venait, tout ça. J'ai montré devant, dans le vague. Il a eu l'air de s'en contenter. En tout cas, il n'a plus rien demandé. Il faisait tiède. Le moteur tournait bien rond, bien chaud. La route défilait dans les phares, très noirs sous la pluie. Les arbres sans feuilles tendaient leurs doigts tout maigres vers le ciel. Parfois, on traversait un village endormi, puis une plaine. J'aurais voulu rester toujours dans ce camion. Qu'il roule sans jamais s'arrêter jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'océan. Parce qu'il roulait vers l'ouest, ça j'en étais sûre. Vers ce pays que Yann nous avait montré de son doigt une nuit d'été, par la petite fenêtre de notre chambre. Il avait dit, là-bas, c'est l'ouest. Le ciel est plus grand qu'ici, et puis, il y a l'océan. Oh, l'océan! On s'était demandé où il avait pêché ça, vu qu'il avait à peine 4 ans à l'époque et que personne n'avait pu lui dire. Mais bon, on s'étonnait déjà plus de rien avec lui. En tout cas, on l'avait cru sans hésiter, et depuis, chaque fois qu'on regardait par cette fenêtre, on voyait plus le pré du Père Cole avec ses pommiers, ni la clôture, ni la mare. On se crevait les yeux sur la ligne grise de l'horizon, et on voyait le ciel s'agrandir, on voyait l'océan. On l'entendait même avec ses énormes vagues qui brassaient le sable de la plage. Oh, c'est pour ça, ce camion qui nous emportait dans cette nuit magique, ce camion roulait vers l'ouest, c'était sûr. Pour mieux en profiter, j'ai lutté contre le sommeil. J'imaginais que cet homme tranquille, là, à côté de moi, c'était notre père, et que la jolie femme de la photo, sur le tableau de bord, c'était notre mère. Allez, les gars, je vous emmène faire un petit tour, il aurait dit. Elle aurait drôlement râlé, et l'école demain. Mais nous, on aurait crié et supplié les 7 ensemble jusqu'à ce qu'elle cède. Et maintenant, on serait là, dans le camion, avec lui. Ils dormiraient tous, sauf moi, parce que l'aîné s'endort pas comme un bébé. Il doit veiller pour tenir compagnie à son père. « Ça va, mon grand, tu dors pas ?»« Ça va, j'aurais répondu. » Et j'aurais été très fière. Parce que des pères comme ça, qui traversent la nuit dans leur camion géant, tout seuls, sans peur, tandis que tout le monde dort au chaud, moi, je dis qu'on peut être fier d'être leur garçon. J'imaginais de mon mieux, mais ce genre de truc, ça dure jamais longtemps. Le type à côté de moi, c'était pas notre père. Notre père, il n'a pas de camion. Il a juste un tracteur et une vieille voiture qui démarre pas en hiver. Il donne des coups de pied dedans avec ses bottes sales et il gueule si fort que ça nous fait peur. Qu'allait-il se passer quand il nous remettrait la main dessus? Je me suis tournée vers Yann pour qu'il me redonne un peu de courage, mais c'est le regard de Fabien que j'ai rencontré. Il m'a souri, ça voulait dire « on est bien, non ?» Je lui ai rendu le sourire avec une petite grimace en supplément, ça voulait dire « on est bien, oui, mais jusqu'à quand ?» Puis j'ai fermé les yeux et je me suis endormie. « On descend tous, vite, vite !» Yann nous secouait de toutes ses forces, nous tapait de ses petites mains et il rassemblait nos habits. Le camion était à l'arrêt, mais le moteur tournait. J'ai vu le chauffeur qui marchait vers un bâtiment. Gendarmerie. En moins d'une minute, on était tous dehors, à moitié nus, nos chaussures serrées contre le ventre. On a cavalé vers le fossé et on l'a franchi comme on a pu. « Courez, courez !» On a couru, à toutes jambes et tout droit. C'était plat et doux sous nos pieds, un terrain de foot sans doute. Seulement, ça glissait drôlement. C'est un des deux petits, Max, je crois, qui est tombé d'abord. Une gamelle de première catégorie. Les pieds lui sont montés à hauteur de la tête. Puis c'est son jumeau, Victor, qui s'est pris une pelle. Tous les 5 mètres, on valdinguait à tour de rôle. Je crois qu'on le faisait un peu exprès à la fin. C'est vrai, une fois que le mal est fait, tremper pour tremper, crotter pour crotter, autant y aller carrément. C'est ce qu'on s'est dit. Il paraît que des gens paient pour prendre des bains de boue, de la boue tiède, je pense. Celle-ci était glacée, mais c'était gratuit. Quand on est arrivé au bout du stade, il manquait Yann. On s'est retourné, on a attendu un peu, et il a fini par apparaître dans la nuit. Il allait au petit trot. Il faut dire qu'il ne sait pas courir, Yann. Il trotte, comme les bébés. On a eu un peu honte de l'avoir oublié. À quelques mètres de nous, il a glissé et s'est retrouvé sur les fesses. Ça a fait splaf dans la boue. Nous, on n'a pas pu s'empêcher de rire. Et il a ri avec nous. À ce moment-là, j'ai su qu'on s'en sortirait. Malgré le froid, la nuit, la peur, malgré tout, on s'en sortirait. Je suis allée vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Derrière nous, il y avait des gradins de bois pour les spectateurs. C'était bien un stade. On est allé se cacher dessous. On s'est blotti dans le coin le plus sombre et, à défaut d'une meilleure idée, on s'est serrés les uns contre les autres. Peu à peu, on a repris notre souffle, mais quand le calme est revenu, on s'est rendu compte qu'on claquait les dents. J'ai compris que si on restait ici, on allait tous mourir de froid. Récit de Jean-Michel Ecken, 44 ans, écrivain. François m'avait prévenu. Tu veux du calme? J'ai exactement ce qu'il te faut. Et par-dessus le marché, c'est un pavillon d'une beauté fulgurante. Il appartenait à mon arrière-grand-tante. Elle y est morte il y a 6 mois. Tu ne crains pas les fantômes, bien. Alors, je te décris en gros. Depuis la salle à manger, au décor un peu chargé peut-être, mais que tu adoreras si tu apprécies les dominantes marrons, tu jouiras d'une vue imprenable sur le stade municipal. Entraînement tous les mercredis, match un dimanche sur deux. La cuisine, merci Formica, donne sur les pavillons voisins. Tu n'es pas sujet à la dépression, parfait. La chambre maintenant, le papier peint représente des scènes de chasse avec beaucoup de faisans si je me souviens bien. Il y en a aussi au plafond d'ailleurs. Voilà. Ah, le téléphone, oui, il est coupé. Il n'y a pas de téléviseur. Si tu as des problèmes, la gendarmerie est à 200 mètres. Excitant, non? Et un dernier détail, puisque tu persistes à ne pas vouloir prendre ta voiture, le premier cinéma est à 48 km de là. Pour y aller, tu as deux cars. Un qui passe vers 6h30 le matin. C'est le premier. Toujours partant? Bien sûr que j'étais partant, plus que jamais. Ce pavillon perdu au fin fond de la Dordogne, c'était pour moi le paradis sur terre, le lieu idéal où j'allais enfin pouvoir écrire. Écrire le matin, le soir, la nuit, sans jamais être dérangé. Écrire jusqu'à ce que les yeux me fassent mal, jusqu'à en être courbattu. J'ai remercié François et 2 jours plus tard, je sautais dans le train de Limoges avec la jubilation d'un enfant qui va découvrir la mer. Comble du bonheur, c'était au début du mois de novembre, vous vous rappelez sûrement ces semaines de froid et de pluie qu'on a eues à l'époque. Tout le monde s'en est plaint, sauf moi. Pour la bonne raison, je n'aime pas la chaleur ni le soleil. Il brûle les yeux et surtout il m'empêche de travailler. J'aurais dû naître en Islande, en Lettonie, dans un de ces pays où il fait nuit à 16 heures. Enfin, j'imagine. Bref, aussitôt arrivé dans mon petit paradis, j'ai sauté avec délice dans les pantoufles de la tante Bidule, j'ai installé mon bureau sur la table de la salle à manger et j'ai commencé à écrire. Ça s'est passé dans la nuit du 7 au 8 novembre. J'étais dans le pavillon depuis 3 jours donc. Il était 3 heures du matin environ. J'avais travaillé avec bonheur jusque-là et je m'offrais un petit casse-croûte dans la cuisine. Le plaisir des dieux. Un reste de poulet mayonnaise et une bière tranquillement, peinard, avec le sentiment d'avoir fait du bon boulot. Mon roman avait drôlement bien démarré. Un petit voleur de grande surface qui tombe amoureux d'une caissière. C'est l'été, la canicule, au bord de la mer, quelque part en Normandie. Plus j'avançais dans l'histoire et plus je le voyais, ce petit gars, plus je l'aimais. En écrivant, parfois, j'en étais émue aux larmes. Donc je termine mon festin et en traversant la salle à manger pour aller me coucher, je jette machinalement un coup d'œil sur le parc des princes en dessous. D'abord, je me demande si j'ai la berlue ou quoi. Je vois des espèces de pantins désarticulés qui cavalent sur la pelouse et se cassent la figure tous les 3 pas. Alors là, je me dis, il y a 2 possibilités. Ou tu es complètement paf après une seule bière, ou bien l'équipe locale a perdu dimanche son 12e match d'affilée et elle s'entraîne désormais la nuit pour échapper à la honte. Je me colle le nez contre la vitre et j'essaye de voir mieux. Il me semble que les silhouettes disparaissent là-bas sous les tribunes du stade. Bizarre, vous avez dit bizarre? Je me tire une chaise sous les fesses et j'attends la suite des événements. Un poids lourd est stationné sur le parking de la gendarmerie. Le moteur tourne un peu puis il s'arrête. Le faisceau d'une lampe de poche balaye les alentours du camion, fouille le fossé en particulier, puis s'éteint. Rien ne bouge du côté des gradins, c'est le calme plat. Et la tempête sous mon crâne. Appeler la gendarmerie? Bah, de toute façon, il n'y a pas de téléphone dans mon palace. Y aller? Pour dire quoi? Ils sont là, comme à Guignol. Ils sont là qui, d'abord? Apparemment, il y a un chasseur et des lapins dans cette histoire. Et que voulez-vous, dans ce cas de figure, j'ai toujours un faible pour les lapins. Un quart d'heure s'écoule comme ça, puis le poids lourd redémarre et s'en va. Ils n'attendaient que ça, mes lapins. Et les voilà qui pointent le bout de leurs oreilles. J'en compte 1, 2, 3, 6. Cette fois, il ne court plus, il progresse à la queue leu-leu le long de la ligne de touche. Mais qu'est-ce qu'ils serrent comme ça tous contre leur poitrine? Je finis par les distinguer assez pour m'en rendre compte. Et la stupeur, ce sont leurs habits. Ils sont à moitié nus. Dehors, il ne fait pas 5 degrés et ils sont à moitié nus. Ce sont des garçons de 12 ou 13 ans, maigres comme des chats de gouttière. À 30 mètres de distance, on leur compterait les côtes. Voilà qu'ils s'avancent tout droit dans ma direction et s'arrêtent juste sous ma fenêtre. On reste un moment comme ça, eux transis de froid, l'air désemparé, moi immobile, derrière le rideau. Je vais pour ouvrir quand mon regard tombe sur un détail. Et là, c'est le coup de grâce. Figurez-vous que le dernier garçon, le plus grand semble-t-il, porte un tout petit enfant dans ses bras. Il l'a enroulé dans un pull et on voit la grosse tête ronde qui dépasse. Soudain, le mioche dégage un de ses bras, pointe son index devant lui et aussitôt, tous démarrent comme un seul homme dans la direction indiquée. J'ai connu pas mal de petits-enfants dans ma vie, mais avec une autorité pareille, j'avoue que c'est la première fois. Je fonce dans la cuisine pour ne pas les perdre de vue et je retrouve ma fine équipe derrière le pavillon des voisins. Au bas d'une porte de service, il y a une chatière. Le môme se fait déposer là et entreprend de se faufiler à l'intérieur. Pas de problème jusqu'aux fesses, mais ensuite il a beau gigoter, rien à faire, ça ne passe plus. Un des garçons essaye de le pousser et reçoit un coup de talon dans la figure. Les autres regardent sans rire. Sans rire, ça m'a frappé ça. Finalement, le petit ressort, se retourne, passe ses jambes d'abord et disparaît aussitôt à l'intérieur. Au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre. Ils entrent tous, très vite, sans bousculade. À peine sont-ils dedans que la pluie redouble. Mes yeux restent accrochés à la porte. Mon petit voleur amoureux est à des années-lumière. Récit de Agathe Merle, 74 ans. Des écureuils, d'après Maurice. Des écureuils. Oh, le pauvre, il ne s'arrange pas avec l'âge. Est-ce qu'on a déjà vu des écureuils ouvrir un pot de confiture? Des boîtes de gâteaux secs, je veux bien. Ils auraient grignoté l'emballage, mais mon pot de rhubarbe, franchement. J'irai bien demander au voisin s'il n'a rien eu chez lui. Mais j'ose pas déranger, c'est un écrivain. Je le sais par François, l'arrière-petit-neveu de la pauvre Germaine. Il est là pour 2 ou 3 semaines, cet homme. Il a besoin de calme pour travailler. Il faut pas le déranger, alors je dérange pas. Et pourtant, j'en aurais à lui raconter. C'est pas les histoires qui manquent ici. Mon idée à moi pour la confiture, je la dis à personne parce qu'on me rirait au nez, mais n'empêche que je la soutiens mordicus. Qu'est-ce qui est assez petit pour passer par la chatière et qui a des doigts pour dévisser le pot de rhubarbe? Tournez et retournez la question comme vous voulez, mais si vous avez pour 2 sous de jugeote, vous arriverez à la même réponse que moi. C'est un singe. Un singe, vous dis-je, qui se sera échappé d'un cirque. Et voilà. En attendant, je vais dire à Maurice de clouer la chatière. La minette fera ses besoins dans la litière, et puis c'est tout. Récit de Victor Doutrelot, 11 ans, frère de Yann. Je m'en ficherais bien, moi, de marcher si j'avais des chaussures à moi, mais j'en ai perdu une dans le fossé quand on est descendu du camion, et les grands ont jamais voulu que j'aille la récupérer. Alors, j'ai trouvé une paire de souliers de dame dans le garage où on a dormi, et maintenant, je marche avec. Max arrête pas de rigoler à cause des talons. Très drôle. C'était bien dans le garage. On a fait sécher nos affaires sur la chaudière et on a dormi dans des bleus de travail qui étaient là. Comme il en manquait, les grands se sont relayés pour les porter. Max et moi, on a eu le droit de garder les nôtres toute la nuit. Avant de partir, on a mangé 3 paquets de gâteaux secs et une sorte de confiture que je ne connaissais pas. On a bien tout remis en place, les vestes et tout. Et puis, on a piqué un sac de toile, genre cabas pour les courses. Fabien et Rémi le portent à tour de rôle à cause du poids. Parce qu'il fait bien ses 12 kilos, Yann. Ils ont dit qu'on se ferait vite repérer avec lui, que 6 enfants et un petit bonhomme genre Yann, ça tirait l'œil. Alors, ils l'ont mis dans le sac. Seulement maintenant, ben, il faut le porter. On s'est répartis en 3 groupes pour passer inaperçus. Fabien et Rémi vont devant. Ils marchent d'un bon pas et c'est pas facile de les suivre. On les voit qui s'arrêtent parfois. C'est quand ils savent plus où aller. Alors ils posent le cabas et Yann sort sa petite tête. Il la fait pivoter dans tous les sens, on dirait un périscope. Il regarde en l'air aussi, on a l'impression qu'il renifle. Puis il tend son doigt dans une direction et c'est reparti. Pierre et Paul, les moyens, suivent 100 mètres derrière avec leurs casquettes à oreilles qui flottent sur les côtés. De temps en temps, ils se retournent pour voir si on arrive. Bien sûr qu'on arrive, on n'a pas le choix de toute façon. Nous les petits, on doit suivre et c'est tout. Mais on est drôlement courageux, c'est Rémi qui l'a dit. On a juste pleurniché un peu quand on a quitté la maison en pleine nuit. Enfin, la pluie s'est arrêtée aujourd'hui, c'est déjà ça. Au milieu de la matinée, les grands nous ont attendus et on s'est retrouvés tous ensemble dans une cabine au bord de la route. C'était un arrêt de car, je crois. J'ai demandé à Rémi. « Où est-ce qu'on va, Rémi ?» Ça me travaillait depuis un moment, cette question. Il a dit « On va vers l'ouest, vers l'océan. » Et Fabien a ajouté « L'océan Atlantique. » Et il a sorti de sa poche un paquet de gâteaux secs. C'était une bonne surprise parce que je pensais qu'on les avait tous finis. On a grignoté en silence et pendant tout ce temps, les mots de Fabien dansaient dans la cabane. « Océan Atlantique. Océan Atlantique. » Les gens dans les voitures pouvaient bien nous jeter des coups d'œil de travers. Ils allaient certainement pas aussi loin que nous. Yann est resté caché, il a mangé dans son sac. Il a secoué les miettes avant de repartir pour pas que ça le gratte. Océan Atlantique. Je ne sais pas combien de temps il faut pour y aller à l'Atlantique, ni ce qu'on y fera une fois arrivé là-bas. N'empêche que pendant une bonne heure, on a moins senti la fatigue, Max et moi. On marchait de bon cœur. Il a même chaussé mes souliers de dame pendant 1 kilomètre ou 2. Mais j'ai bien vu qu'il avait du mal avec, alors je les ai repris. Récit de Max Doutrelot, 11 ans, frère de Yann. J'ai bien essayé de soulager Victor en prenant ses chaussures, mais au bout de 500 mètres, j'avais les orteils en compote. Je sais pas comment il arrive à marcher avec ça, enfin c'est mieux que pieds nus. Vers midi, une voiture nous a doublés, avec une dame et 2 enfants derrière. Ils avaient notre âge à peu près, sans doute qu'elle les ramenait de l'école. Ils se sont retournés et nous ont fait des grimaces. On n'a pas répondu. Ils ont recommencé plus loin avec les moyens. Alors Paul leur a fait un bras d'honneur et Pierre a pointé le grand doigt du milieu en l'air, ce qui est encore plus mal poli d'après moi. Pierre et Paul, un jour, ils tomberont sur plus fort qu'eux et ils prendront une dérouillée. C'est ce que leur disent toujours les grands, mais ils ne veulent rien entendre. On dirait qu'ils cognent sur les autres tout ce que leur père a cogné sur eux. Pour se venger, quoi. C'est drôle, parce qu'ils ont des têtes carrées. On se demande si elles sont devenues carrées parce qu'ils sont cogneurs, ou bien s'ils sont devenus cogneurs à cause de leurs têtes carrées. En tout cas, elles leur vont bien, leurs têtes. Au collège, ils ont peur de personne. Le jour où on est entrés en 6e, Victor et moi, il y a un grand qui s'est moqué de nous. Il échangeait nos casquettes et nous présentait en faisant semblant de se tromper. « À ma droite, Doutrelot. À ma gauche, Loutredeau. Non, à ma... » Tout le monde se marrait en nous regardant. Nous, on souriait parce qu'on voulait quand même pas pleurer le premier jour. Là-dessus, Pierre et Paul sont arrivés. Ils n'ont pas mené l'enquête pendant 3 jours pour savoir le pourquoi du comment ni l'âge du capitaine. Ils n'ont pas dit un mot. C'est parti tout de suite. Des grands coups de cartable à bout de bras. Le gars est tombé, mais ils se sont pas arrêtés. Au contraire, ils se sont acharnés sur lui. Ils saignaient de la bouche et c'est un surveillant qui a arrêté le massacre. Ils ont été punis au collège et le père leur a flanqué une bonne rouste par-dessus le marché. Mais le soir même, quand on est allé se coucher, Pierre est venu vers notre lit et il nous a dit « Si on vous embête encore, faut nous le dire, hein ?» Ça nous a surpris, parce qu'ils nous parlent presque jamais. Ils sont pas bavards, Pierre et Paul. En tout cas, on ne nous a plus jamais embêtés. Je pensais à tout ça en les regardant marcher devant nous avec les ailes de leurs casquettes qui flottaient sur les côtés. Je me demandais s'ils seraient vraiment capables de casser la figure à tous ceux qui nous voudraient du mal. S'ils n'étaient pas un peu petits pour ça quand même. On a fini par arriver tout près d'un village. Il était presque 1 heure au clocher. On s'est caché dans le petit bois juste à côté. Les 2 grands ont posé le sac et nous ont dit de les attendre, qu'ils allaient chercher à manger et qu'ils revenaient tout de suite. Et ils nous ont laissés là. Récit de Michel Moulin, 42 ans, boulangère. J'allais fermer la boutique quand ils sont entrés. 2 grands garçons, pâles, avec des vestes fripées, des jumeaux. On a beau dire, quand 2 personnes se ressemblent à ce point, c'est une chose bien saisissante. C'est comme de la magie. On se surprend à penser qu'ils pourraient aussi bien disparaître dans un nuage de fumée, puis réapparaître en miniature et en 4 exemplaires. Ou bien en une seule personne de 3 mètres de haut, on se dit qu'ils sont sans doute capables d'accomplir tous les prodiges et que s'ils ne le font pas, c'est juste par modestie. Est-ce que leur mère pouvait seulement les distinguer, ces deux-là? Sans doute que oui, sans doute qu'elle connaissait le secret, la minuscule, la presque invisible différence. Un léger balancement de la tête chez l'un, une espièglerie dans l'œil de l'autre, comment savoir? Les jumeaux se ressemblent davantage les jours de pluie, paraît-il. C'est encore un de leurs mystères. Ils ont fait un seul petit pas à l'intérieur du magasin et se sont arrêtés. Je ne savais pas lequel regarder. L'un des deux a dit à voix très basse « Bonjour, madame. On voudrait du pain, mais on n'a pas d'argent. » J'ai dû le lui faire répéter parce que je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Mais c'était ça. « Bonjour, madame. On voudrait du pain, mais on n'a pas d'argent. » Là, j'ai compris pourquoi il restait si près de la porte. Ça voulait dire « On n'est pas des vrais clients, alors on ne s'avance pas plus. » C'est ça qui m'a touchée, je crois, cette timidité. Et leurs vêtements aussi. Des pauvres gosses, vraiment. Je tiens la boutique depuis 7 ans, et avant celle-là, j'en ai tenu une autre, à Angoulême. Eh bien, jamais personne ne m'avait demandé avec autant de candeur et d'innocence « On voudrait du pain, mais on n'a pas d'argent. » J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai répondu « C'est pas grave. » Et je leur ai tendu une baguette. Celui de gauche a fait un pas en avant et l'a prise. Alors, j'ai eu un réflexe. N'importe qui aurait fait la même chose tellement ça allait de soi. J'ai saisi une seconde baguette et je l'ai tendue à son frère. Ils ont remercié et sont sortis. J'ai fermé derrière eux et je suis montée pour aller manger. Quand la semaine suivante, le premier article sur l'affaire d'Outrelot est paru dans le journal, j'ai vite fait le rapprochement. Je pense que ce sont les aînés que j'ai vus. Je dis ça à cause de leur douceur. En effet, les deux moyens étaient assez violents, paraît-il, de vraies furies même. Le journaliste disait que pour les maîtriser, il avait fallu plusieurs hommes et qu'un des gendarmes avait eu un doigt retourné. Enfin bon, ce qu'il raconte dans les journaux est la vérité, hein. En tout cas, les deux à qui j'ai donné le pain n'avaient pas l'air bien méchants. Ils faisaient plutôt pitié. Restent les deux petits. Je pense qu'ils devaient s'être cachés quelque part à proximité du village et qu'ils attendaient leur frère pour manger. À propos de Yann, le dernier, je préfère me taire. On a raconté assez de sottises. À croire que les gens n'ont pas eu leur compte d'histoire quand ils étaient petits et qu'ils essaient de se rattraper plus tard. À la boulangerie, je suis bien placée pour entendre et je peux dire que j'ai vraiment tout entendu. « Si, si, Madame Moulin, le gosse était un surdoué, il était capable de battre un ordinateur aux échecs. » « On n'ose pas le dire, Madame Moulin, mais le gosse était un demeuré. Ses frères en avaient honte. Voilà pourquoi il le cachait dans un sac. Au fait, il paraît que le gosse veillait la nuit comme les chats. Vous saviez ça? On dit qu'il ne dormait jamais. On dit qu'il dormait tout le temps. Il avait 6 ans, il avait 12 ans, il avait 3 ans. J'en passe et des meilleurs. J'ai laissé dire. Pour moi, la seule vérité est que ce gosse, comme il dit, était un gosse, justement. Un simple petit gosse. » qui demandait seulement qu'on le tienne au chaud et qu'on lui dise des gentillesses de temps en temps. Je ne sais pas grand-chose sur l'affaire, mais j'ai comme le sentiment qu'il n'a jamais connu ça. Alors on ferait mieux de lui ficher la paix et de se taire. Surtout maintenant qu'il n'est plus là. Ma seule consolation, c'est de savoir qu'il a sans doute mangé un peu de mon pain, ce petit, et que je l'avais donné de bon cœur. Récit de Pierre d'Outrelot, 13 ans, frère de Yann. Les deux grands sont revenus au bout de 10 minutes avec 2 baguettes. On nous les a données, ils ont dit. J'ai demandé. C'est tout? C'était tout. Avec Paul, on s'est regardé et on s'est compris. La prochaine fois, on irait tous les deux et on rapporterait de quoi manger, nous. Pas de quoi faire semblant. Enfin, bon, on n'a rien dit parce que c'était pas le moment de s'engueuler. On a partagé, bien égal, et on a commencé à manger debout. Et puis on s'est tous assis en rond par terre. C'était trempé, mais tant pis. On en avait plein les pattes d'avoir trotté tout le matin. Et on aurait bien le temps de sécher l'après-midi. Au milieu, il y avait Yann dans son sac. Il a grignoté un bout de crouton et il s'est endormi. On le regardait tous sans rien dire. C'était drôle. Ça faisait comme la crèche avec le petit Jésus. Sauf qu'autour, il n'y avait pas toute la ménagerie. L'âne, le bœuf et les autres bestioles. Il y avait juste nous qui mangeons notre pain. Récit de Paul, d'Outrelot, 13 ans, frère de Yann. On est resté un bon quart d'heure à passer d'un pied sur l'autre dans ce bois. Ils ont fini par revenir avec de quoi manger. Mais leur de quoi manger, c'était 2 baguettes de pain. Avec Pierre, on s'est regardé et on s'est compris. La prochaine fois, c'est nous qu'on se chargerait du ravitaillement et ce serait mieux pour tout le monde. On s'est assis par terre pour manger. Ça nous trempait le cul, mais bon, on en avait marre de rester debout. Yann a rien mangé. Un demi-crouton peut-être et encore. On l'a installé au milieu dans son sac et il s'est endormi. J'y ai jeté ma veste dessus parce que quand on dort, on aime bien avoir chaud. On l'a regardé un bon moment. J'ai rien dit, mais je trouvais que ça faisait un peu comme la crèche avec le petit Jésus dedans. Récit de Dominique Etcheverry, 28 ans, gendarme. C'est bizarre, on n'avait pas vu un chat de la matinée et vers 1 h de l'après-midi, le défilé commence. D'abord, une gentille mamie. On a empoisonné son chien d'après elle. Elle est à peine sortie qu'arrive un gars d'une vingtaine d'années avec son casque de moto sous le bras. Bonjour monsieur, je viens porter plainte. Un vieux cinglé a soi-disant voulu le sortir de la route avec sa R25. Le temps que je me fasse expliquer ça de plus près, voilà que la porte s'ouvre de nouveau et cette fois, c'est tout le Moyen-Âge qui entre dans la gendarmerie. Un couple de paysans, genre Jacou le Croquant, si vous avez vu la série. Vous pouvez patienter un peu, je leur demande. L'homme soulève sa grosse main et me fait un signe, comme quoi oui, ils peuvent patienter, il n'y a pas de feu. La femme semble du même avis. En réalité, il y avait le feu, mais je ne pouvais pas savoir. Juste à l'entrée, on a une banquette avec une mousse dessus. Asseyez-vous, je leur fais en la montrant. Aucune réaction, c'est le genre de personne qui s'assoit sur des chaises ou sur des bancs. Dès que c'est un peu mou ou un peu bas, ils pensent qu'ils vont salir ou qu'ils ne pourront plus se relever. Ou plutôt, ils estiment que c'est pas pour eux. Bref, mes deux mannequins de chez Dior restent piqués là et attendent. Je passe à côté avec le motocycliste et quand j'en ai fini avec lui, c'est-à-dire un bon quart d'heure plus tard, je reviens à l'accueil. Les deux n'ont pas bougé d'un poil. J'étais pas là, mais je suis sûre qu'ils se sont pas adressés un mot, ça se sent. Messieurs, dames, je leur dis, l'homme donne un coup de coude à la femme, elle s'approche jusqu'à moi et me sort texto. C'est les gosses, ils ont foutu le camp. Pardon? Les gosses, ils ont foutu le camp. Et deux gros sanglots lui échappent, comme des hoquets. Ça n'a pas duré longtemps. Elle a dû s'en vouloir de s'être laissée aller comme ça, et l'instant d'après, elle était à nouveau dure comme de la pierre. Ça devait la travailler depuis un moment, et le dire comme ça, tout simplement, avec les mots qui conviennent, les gosses ont foutu le camp, ça l'a remuée. Depuis la porte, l'homme nous regarde avec un air farouche, du style « J'ai bien voulu la suivre, mais c'est elle qui cause, hein. Me demandez rien à moi. » Les gosses, comme elle dit, sont partis dans la nuit. Ce matin, en tout cas, il n'y avait plus personne. Et pourquoi ils seraient partis? Elle ne sait pas. C'est la première fois qu'ils font ça? Oui, c'est la première fois. Ils ne seraient pas à l'école, tout bêtement? Non, ils ne sont pas à l'école et c'est seulement maintenant qu'ils les signalent? Oui, parce qu'ils les ont cherchés avant de venir. Ça, pour chercher, ils ont dû chercher. Les deux ont les yeux hagards, ils sont hirsutes, leurs vêtements sont trempés. On aurait du mal à croire qu'ils sortent d'une partie de bridge chez le préfet. J'enregistre tout ça, j'alerte Jean-Pierre, un collègue qui vient du Midi comme moi, et on saute dans la 4L. Les Doutrelots, ils s'appellent comme ça, nous précèdent dans leur 404, à laquelle montrent, entre autres accessoires, le pare-choc arrière et le rétro extérieur. Dans la cour de la ferme, il y a une Polo rouge et deux personnes qui nous regardent arriver. Récit de Pascal Josse, 34 ans, mécanicien, mari de Nathalie Josse. C'est la première fois qu'elle me faisait ce coup-là, Nathalie. En plein milieu de la nuit, le vrai bon cauchemar. Sors-moi de là, sors-moi de là! Et les ongles plantés dans mon bras. La sortir de là, d'accord, mais il fallait qu'elle y mette un peu du sien. À mon avis, le plus urgent était qu'elle se réveille tout à fait. J'ai allumé, j'ai pris son visage dans les mains et je l'ai caressé. Réveille-toi, Nathalie, c'est moi! Mais rien à faire. Ses ennemis invisibles semblaient vouloir la garder encore un peu entre leurs griffes. Pour la tirer de là, je les aurais volontiers étripés, écrabouillés, décapités, seulement j'avais du mal à les distinguer. Elle a tout de même fini par ouvrir les yeux. La première chose qu'elle a vue, c'est ma bouille et apparemment, ça lui a fait plaisir. Elle s'est jetée sur moi et m'a serrée contre elle. Un noyé ne s'y prend pas autrement avec la bouée qu'on lui jette. C'est un de ces moments où on a vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et c'est assez agréable, j'avoue. Les clients du garage où je bosse me font très rarement la fête comme ça. Tu as fait un cauchemar, je lui ai dit. Tout va bien, on se calme. Je l'ai gardée contre moi le temps qu'elle s'apaise. 10 minutes plus tard, on était assis dans la cuisine devant une tasse de lait chaud. Et je l'écoutais. Son histoire de petit bonhomme futé et des 6 frères jumeaux m'en rappelait une autre. Je n'ai pas mis longtemps avant de réagir. Mais dis-moi, c'est le petit poucet que tu me racontes ou quoi? Elle est tombée des nues. Pourtant, c'était l'évidence même, non? Je suis loin d'être un crack en littérature, mais je connais mes classiques. Je me souvenais même que dans le conte de Perrault, la mère aimait plus que les autres un de ses deux fils aînés, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle-même était rousse. Ça m'avait frappé à l'époque. Il faut dire que, de ce point de vue, je suis servi. Ce que j'ai sur la tête, c'est pas des cheveux, c'est un incendie. Toujours est-il qu'on avait parfaitement le conte. Les six frères, tous jumeaux, et le dernier, le petit avorton gros comme le pouce, qui devenait bien sûr le héros de l'histoire. Pour que la distribution soit complète, il ne manquait plus que le méchant, l'ogre. Mais apparemment, ma petite femme venait de le rencontrer, et c'est ce qui l'avait mis dans cet état. Le plus insupportable, c'est que ce gosse ne me quittait jamais des yeux. On lui faisait subir des horreurs, et il se contentait de me regarder avec l'air de dire « Vous voyez ce que vous avez fait ? Du joli travail, hein ? » Je vous passe le détail des horreurs qu'on infligeait aux petits dans le cauchemar de Nathalie. J'aime pas ça. Même le dire, j'aime pas. Pour la rassurer tout à fait, j'ai dû lui promettre de l'accompagner le lendemain, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés tous les deux vers 1h30 de l'après-midi, dans la cour de la ferme, chez les Doutrelot. « Tu resteras dans la voiture, je m'en fiche, mais je préfère que tu sois là. Cette bonne femme me fait peur. » La cour était bien comme Nathalie me l'avait décrite. Les Doutrelot n'étaient pas abonnés à maison et jardin, c'était clair. Le chien était là sur le seuil, il louchait très fort. Ça, elle ne me l'avait pas signalé. À part lui, personne à l'horizon, ni grand ni petit. C'était un mardi, les enfants devaient être à l'école. Mais où étaient les parents? J'ai donné un coup de klaxon, puis un autre. Le chien nous fixait en silence. Enfin, il essayait de nous fixer, ça l'obligeait à incliner la tête. Je suis descendue, je me suis avancée vers le hangar pour voir si une voiture serait là. J'allais faire demi-tour quand j'ai entendu des miaulements. Des chatons, qui devaient être bien petits, mais où se cachaient-ils? Donc j'ai tendu l'oreille pour tâcher de repérer mes petits miauleurs. Et après une minute de « tu es chaud, tu es très chaud, tu brûles », je les ai dénichés au fond d'un placard déglingué. Sept chatons, encore aveugles, empêtrés les uns dans les autres et qui criaient la faim. La mère ne devait pas être bien loin. Je les ai observés un instant. Je suis de la campagne et je connais la musique. Quand sept petits chats naissent dans une ferme, leur espérance de vie est plutôt brève. Brève. Dans le meilleur des cas, c'est le chloroforme, le sac et la rivière. Dans le pire, c'est deux coups de pelle et un troisième si ça bouge encore. Âme sensible, s'abstenir. J'ai eu la tentation d'en prendre un pour le sauver, mais qu'est-ce qu'on en aurait fait? On n'en veut pas dans l'appartement avec le bébé. Là-dessus, la chatte est arrivée, elle s'est couchée sur eux. « Profitez-en, j'ai pensé. » Nathalie m'attendait. « Qu'est-ce que tu fiches si quelqu'un arrivait ?» Elle ne croyait pas si bien dire. Deux voitures sont entrées dans la cour. Dans la première, il y avait le père et la mère Doutrelot. La seconde était une quatrelle de la gendarmerie. Le père Doutrelot m'a interrogé du regard. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» Je me suis rendu compte qu'un regard pouvait dire exactement cette phrase. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» J'ai bredouillé. « Je m'excuse, on vous attendait et j'ai entendu des miaulements dans le hangar, alors je suis allée voir. »« Ah oui, les chats, je voulais les tuer ce matin, mais avec tout ça. »« Tout ça quoi ?» on s'est dit. Un des gendarmes nous a demandé avec un fort accent du midi qui on était. Quand il a su que Nathalie était l'assistante sociale, il l'a prise à part et lui a expliqué que les sept enfants avaient disparu, qu'ils étaient tous partis dans la nuit. Puis, ils sont entrés dans la maison avec les Doutrelot. Nous, on n'avait plus rien à faire ici, alors on est parti. Nathalie a pleuré pendant tout le trajet. J'ai passé l'après-midi au garage, et j'espère n'avoir pas monté trop de plaquettes de frein à l'envers, parce que je n'étais vraiment pas à ce que je faisais. Je ne voyais pas les carburateurs, ni les batteries, ni les bougies. Je voyais sept petits chats, sept petits Doutrelot et sept petits poussés. Tout ça dansait dans ma tête. Je voyais surtout et très précisément une image venue de mon enfance. Le petit poussé y était représenté, caché sous une escabelle lors de la terrible nuit. Le père disait « Je suis résolu de les mener perdre demain au bois. » La mère plongeait son visage dans ses mains. Un maigre feu brûlait dans la cheminée. J'étais dans la voiture et je rentrais chez nous quand ça m'est tombé dessus, comme un coup de tonnerre. Et si le petit Yann, lui ou un de ses frères, bien sûr, non, ça ne pouvait être que lui, j'en avais l'intuition. Si donc le petit Yann avait entendu son père dans la nuit, « Je les tuerai tous demain matin, tous les sept !» et qu'il ait pensé que son père voulait... « Tu t'es trompé, petit Yann, Toi qui sais tout, qui comprends tout, pour une fois, tu t'es trompé. Les tuer tous les sept, oui, mais les sept chats, Yann, les chats, pas vous, les chats. Où es-tu maintenant pour qu'on te le dise? Où as-tu entraîné tes frères? Fin de la première partie.